chercheur oriental. J'ai réussi totalement cette équipe.
Moi, c'est une combattie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la technique de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La mission de l'ONU totalise 15 ans de présence en RDC. Elle a vu les jours sous l'appellation de la MONUC le 30 novembre 1999 au terme de la résolution 1279 du Conseil de sécurité des Nations Unies visant la restauration de la paix à travers le pays. En 2010, la mission a changé de mandat et est devenue MONUSCO pour la stabilisation et la consolidation de la paix. Nous en parlons aujourd'hui pour faire le bilan. Quel bilan faites-vous du travail de la MONUSCO? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocafé.net ou bien appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. William Lungamba est à la technique, Pesa Julie Bongonda et Pierrot et la Mégis sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité. Patrick Mavinga, vous êtes à Matadi, vous avez dit dans votre message, le bilan de la MONUSCO ne peut être évalué singulièrement, de peur que nous n'effacions pas objectivement, en tout cas, des analyses. Akili Kabuya de Goma, bien sûr, nous les avons vus depuis leur existence, mais chose étonnante, ce n'est pas ce qu'ils soulignent comme mission qu'ils remplissent ici chez nous. Plutôt, au lieu d'être là pour la sécurité de la population, ils sont là pour la complicité des tueries des différents agents de l'ordre. Voilà, nous avons dans ce studio M. Alexandre Essomé, qui est le chef de la communication sociale de la MONUSCO. Il est avec nous pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Alex, bonjour.
Bonjour, Julien.
Voilà, alors, première question, quels sont les événements et le période qui ont marqué l'évolution de la présence de la mission des Nations Unies en RDC depuis sa création en 1999, au terme de la résolution 1279 jusqu'à ces jours?
Ben, il y a eu beaucoup d'événements, merci également de m'avoir donné la parole. Je peux tout de suite souligner qu'il y a eu énormément d'événements depuis 1999, quand la MONUC à l'époque est d'abord arrivée ici. Nous avons eu une série d'événements, notamment la mise en place des premiers observateurs militaires qui étaient arrivés en République démocratique du Congo. Je veux m'attarder un tout petit peu ici parce que c'est extrêmement important à souligner. Pourquoi? Parce que quand les observateurs arrivent, c'est à la issue de la résolution du 30 novembre dont vous avez fait allusion. Et cette résolution demande à la MONUSCO d'envoyer les observateurs sur le terrain. Et il vous souvient qu'à cette époque, il y avait déjà ce que nous appelions ici les observateurs militaires de l'Union africaine qu'on a appelé en anglais les GMC. Donc, les
joint militaires conjointes.
Voilà, les commissions militaires conjointes qui permettaient, n'est-ce pas, de suivre le travail du cessez-le-feu. Et ceci venait, tout ça venait à la suite de ce qui s'était passé à Lusaka en juin, où les parties en conflit s'étaient mis d'accord pour cesser le feu. Et on a donc dessiné une ligne qui était ce qu'on a appelé la ligne de front,
zone tampon
où les différentes parties ne pouvaient plus s'engager en termes de conflit. Donc les militaires qui venaient appuyer sur les militaires africains qui étaient déjà sur le terrain venaient pour s'assurer que cette observation était faite, cette zone tampon-là n'était pas franchi, du moins du point de vue des différentes parties. Et ceci a été fait pendant à peu près 2 ans et demi, où les observateurs ont continué à surveiller la ligne de front et s'assurer qu'il n'y avait pas de violation de part et d'autre.
Et quelle était la particularité de ces militaires? Étaient-ils armés?
Il faut bien que tu soulignes cela, parce que les observateurs militaires des Nations Unies viennent sur le terrain sans armes. Leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Ils sont juste des observateurs. Ils s'assurent que la décision qui avait été prise par le Conseil de sécurité à son époque pour leur envoyer sur le terrain, c'était d'observer la ligne de front. Et c'est important de souligner ici que quand ils viennent avec tout le support de la communauté internationale. ils viennent avec tout le support de la loi internationale. Donc, on se dit, ces hommes et femmes qui sont sur le terrain et qui n'ont pas d'armes pourront être les yeux du monde entier. Et si les partis en conflit arrivaient à violer ces dispositions, ils auront affaire donc à toute la communauté.
À quoi consistait réellement, concrètement, le travail qui était fait par ces observateurs?
C'était de surveiller toute la ligne de front qui partait de Bassankoso, vous vous souvenez, mm-hmm. Ils traversaient tout le long en allant vers l'est de la République démocratique jusqu'au Katanga. Donc il y avait une ligne de front qui avait été décidée à cette époque par les différents partis prenants et dont leur rôle c'était de monitorer tout le long de la ligne de front
et faire les rapports,
de faire le rapport au Conseil de sécurité de ce qu'il y avait comme violation, escamouche et d'autres surveillances qu'on avait connues à cette époque.
Alors, comment s'est fait l'habitation entre la mission d'observation à la mission des Nations Unies?
La mission d'observation, nous sommes partis parce que autour de 2001, après deux ans d'observation, il arrive dans le besoin de commencer les pourparlers parce qu'en fait, le Conseil de sécurité constate que nous avons suffisamment observé.
Là, nous sommes en 2001 ou 2002 ?
En 2001. Il est nécessaire de commencer déjà les pourparlers. Et donc, on a enclenché les pourparlers et il fallait naturellement changer l'appellation de la MONUSCO qui était à l'époque la mission d'observation à la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le slogan était toujours MONUSCO, mais il y avait eu une nuance qui avait été observée dans l'appellation.
Allez-y.
Oui, donc le plus important pour la MONUSCO, c'était de commencer la période pour parler. Parce qu'à la suite des accords de Lusaka, les différents partis étaient tombés d'accord, non seulement
d'abord avec Gaborone, Lusaka.
Voilà. On a observé le fait qu'il fallait non seulement surveiller la zone tampon, la ligne de front, mais aussi commencer éventuellement les pourparlers. Parce qu'on ne pouvait pas résoudre le conflit si on n'avait pas commencé à proprement parler les pourparlers.
Alors, on arrive au chapitre 7, au fil des temps. Le chapitre 7 a, au fil des temps, fait l'objet des spéculations et d'incompréhensions dans les chefs de bon nombre des Congolais. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Ben, le chapitre 7 est très simple. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix dans un pays et d'une rupture de paix ou d'un acte d'agression et de faire des recommandations à ses membres. Et donc, c'est ainsi que le Conseil de sécurité a décidé que le chapitre 7 devait être applicable pour la République démocratique du Congo.
Et d'abord, c'était un détour pour l'Ituri.
Voilà. En premier temps, c'était d'abord dans la partie de l'Ituri. Qui était en proie à beaucoup de conflits à cette époque-là. Donc, on a d'abord appliqué ce chapitre 7 à l'Ituri, et après, on l'a étendu sur toute l'étendue du territoire national.
Et alors, à quelle période la mission s'est-elle imposée au niveau politique et diplomatique comme l'acteur le plus puissant de la scène congolaise aujourd'hui?
Ben, je ne dirais pas que la MONUSCO est l'acteur le plus puissant politiquement de la scène politique de la République démocratique. Je crois que, de mon point de vue, c'est les Congolais eux-mêmes qui sont les acteurs les plus puissants de l'activité politique de leur propre pays. Je crois que la mission des Nations Unies accompagne les Congolais et les politiciens congolais, n'est-ce pas, à mettre sur pied un ensemble, n'est-ce pas, d'actions qui puissent les conduire vers la paix durable. Parce que, comme vous le savez, la paix, c'est un concept. La paix ne s'obtient pas par un décret. La paix ne s'obtient pas par une législation de l'Assemblée. La paix, c'est un processus dynamique qui se met en place et dont toutes les parties prenantes devraient faire un effort certain pour s'assurer que la paix est atteinte.
Y a-t-il une nécessité à ce jour d'accorder les bénéfices de l'urgence au transfert des responsabilités aux Congolais dans cette mission?
Absolument, ami. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il faut que, à la suite de ce que les internationaux qui ont aidé le processus à se mettre en marche, il faut que les internationaux transfèrent ce processus aux nationaux pour que les nationaux eux-mêmes continuent cette démarche. Parce que les internationaux ne vont pas demeurer ici
éternellement.
Il faut bien qu'un jour que les internationaux partent et qu'ils laissent le pilotage du processus de paix entre les mains des nationaux.
Et quel est le bilan que vous faites vous-même du travail qui est fait par la MONUSCO?
Je peux vous dire que sans embâche, sans risque de me tromper, que la MONUSCO a fait un excellent travail en République démocratique du Congo.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Au pays des léopards, le ballon est roi.
et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous ouvrons les standards pour accueillir les auditeurs qui vont participer dans ce débat. Maître Mavinga, vous êtes à Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour, maître.
Bonjour, Jérôme.
Vous avez la parole. Quel bilan faites-vous du travail de la MONUSCO?
Merci beaucoup de la parole que vous m'accordez. Je salue tous les auditeurs de la Radio Okapi et aussi à vous, à l'invité. Par rapport à cette thème, j'ai trouvé que le bilan de la MONUSCO était hier et plus ou moins positif par le fait que, comme j'avais dit sur la page Facebook, qu'il ne faudra pas évaluer le bilan de la MONUSCO singulièrement. Parce que la MONUSCO est venue, comme M. l'invité l'a dit, la MONUSCO est venue au Congo dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. S'il y reste, il ne veut pas être en contrat avec l'article 3 qui prône la souveraineté des États, les principes de la souveraineté des États, le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe de la non-ingérence aux affaires internes des États. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui la MONUSCO a bien fait son travail parce qu'elle a stabilisé l'Est et la RDC. Mais aussi, il ne faudrait pas que nous soyons trompés. Parce que souvent, quand nous faisons les liens à la MONUSCO, nous pensons que la MONUSCO n'intervient que dans le rétablissement de la paix. Parce qu'on parle aussi de la stabilisation. Moi, je suis à Matadi, dans le fond du Bas-Congo. Nous ne connaissons pas presque la guerre. Mais nous voyons quand même l'apport de la MONUSCO. En 2006, nous avons vu comment est-ce que la MONUSCO est intervenue pour mettre les antagonistes électoraux sur la même table en vue de trouver des solutions sur les conflits électoraux. Et en 2011, nous avons vu la MONUSCO intervenir. Si on limite la mission de la MONUSCO seulement au niveau de la paix à l'est de la RDC, on croirait que la MONUSCO n'aurait pas fait du bon boulot. Mais aussi, quand j'avais dit singulièrement, cela voudrait dire, en premier lieu, c'est à l'État congolais, mais c'est hier d'assumer la sécurité, la paix de la population. En vertu du fait que, en droit, il est reconnu au peuple. On parle de la théorie des médiations. La population est souveraine, mais la population ne peut pas exercer sa souveraineté par elle-même. C'est pourquoi, certainement, par rapport à la théorie des zones d'ocre, il a été demandé à la population de consacrer sa souveraineté à l'État. C'est à l'État congolais qui est le médiateur en retour d'assurer la paix, la sécurité et l'ordre à la population congolaise. La MONUSCO peut intervenir, bien sûr, mais la MONUSCO intervient subsidiairement. Il ne faudrait pas que nous laissions toute la responsabilité à la MONUSCO.
N'oubliez pas, Maître Mavinga, que l'État congolais fait partie des membres des pays, des États membres de l'ONU.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. L'État congolais est membre de l'ONU. Mais cela ne voudrait pas dire que l'ONU doit venir intervenir directement. Parce qu'il y a la souveraineté, j'avais parlé du principe de la souveraineté. Donc, l'État congolais est membre de l'ONU, mais l'ONU ne peut pas intervenir dans une RDC sans avoir reçu l'aval, sinon l'ONU violerait contre le principe de la souveraineté.
Donc, si je comprends bien, vous avez remarqué quelques défaillances du côté de ce partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et l'État congolais. Donc, c'est comme si le partenariat ne tient pas sa route, c'est ça?
Non. En fait, c'est pas ce que je voulais dire, le partenariat est bon. Bon, je peux quand même comprendre ce que vous avez dit. C'est-à-dire c'est comme un contrat synalagmatique, les deux parties
les deux ont une
responsabilité. Donc la MONUSCO est venue au Congo pour apporter de l'aide, la sécurité, la paix, mais il ne faudrait pas laisser toute la charge de la MONUSCO. Dernièrement, le président a vu s'est rendu à l'est du pays, à Beni. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la MONUSCO, il assume la sécurité des populations.
Non, il a demandé qu'on puisse renforcer la protection de la population civile.
De la population, mais non, mais c'est à l'État qu'on est de le faire. C'est pourquoi j'avais dit la MONUSCO intervient subsidiairement. Subsidiairement. Donc, il faut d'abord que la RDC intervienne dans une certaine mesure et la MONUSCO va intervenir.
Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Mavinga. Vous nous appelez à la responsabilité de l'État congolais pour, au fait, participer activement à ces partenariats aux côtés de la MONUSCO pour finalement atteindre l'objectif poursuivi, celui de la protection de la population civile et pourquoi pas la stabilisation et la paix durable en RDC. Merci beaucoup. Eddie, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Cher.
Vous avez la parole, Eddie.
Bon, pour moi, le bilan de la MONUSCO dans notre pays est mitigé. Je ne dirais pas qu'il est positif.
Encore moins négatif.
De toute façon... Pardon ?
Vous avez dit qu'il est mitigé.
Oui, mais je ne dirais pas qu'il est positif. Pourquoi ? Parce que ce serait une façon de nous moquer de certains de nos frères et sœurs qui sont morts sous la barbe de la MONUSCO. Je ne dirais pas aussi que le bilan est négatif parce que si nous observons bien, nous nous rendrons compte que nous venons de loin. La situation qui prévaut aujourd'hui n'est pas celle qui prévalait hier.
Mm-hmm.
Maintenant, pour rebondir un peu sur les propos du premier intervenant, si la MONUSCO était envoyée en République démocratique du Congo, c'est parce qu'on a trouvé que le gouvernement n'avait pas la capacité de gérer le pays. Et qu'il y avait des insuffisances au niveau de l'armée, de la police, raison pour laquelle on a déployé des troupes aguerries, ce sont de plusieurs nationalités, pour venir nous soutenir. Nous savons qu'il y a certains coins où il n'y a que la MONUSCO qui a été déployée. Dans ces coins-là, nous cessions d'enregistrer des morts, des massacres.
Est-ce que, Eddie, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une idée sur le contenu de la résolution 1279, au fait, à la base de la création de la MONUC le 30 novembre 1999? Parce que là, c'est clairement défini les motivations qui ont fait qu'on puisse créer cette mission.
Oui. Il y avait là,
je peux dire, le plus
important qui intéressait beaucoup plus la population congolaise, c'était la sécurisation de la population. La sécurisation de la population. Mais regardez bien, depuis que la MONUC est là jusqu'à présent, combien de Congolais sont morts par balle suite et surtout dans les contrées où la MONUSCO est déployée. Alors,
une question de précision, oui. Eddie. Est-ce que vous avez une idée sur l'évolution de différentes périodes qui ont marqué, en fait, la présence de la mission à RDC? Est-ce que vous avez une idée? Parce que notre invité a parlé de la mission d'observation avant d'arriver à la mission des Nations.
J'ai une idée, monsieur Gilles. Oui. Raison pour laquelle j'ai dit que le travail de la MONUSCO n'est pas négatif. Parce que je me rappelle, moi j'étais à Kamina, j'attendais un frère qui était à Kalemi, il ne pouvait pas venir de Kalemi jusqu'à Kamina directement, il devait aller d'abord en Zambie pour se retrouver à Lubumbashi et maintenant monter de Lubumbashi vers Kamina. À l'époque, on ne pouvait pas aller à Goma, on ne pouvait pas aller à Kisangani. Nous savons tout ça. Aujourd'hui, grâce aussi à la MONUSCO, parce que la MONUSCO a soutenu le gouvernement congolais, nous pouvons dire que la situation qui prévaut aujourd'hui n'est pas celle d'hier.
Mm-hmm.
La MONUSCO nous a aidés dans l'organisation, la MONUC à l'époque, surtout je parle surtout à M. William Chin, nous a aidés dans l'organisation des premières élections, les premières élections que nous avons connues en 2006. La MONUSCO a été d'un grand apport. La MONUSCO était dans le grand apport dans beaucoup de dossiers. Il fallait installer les tribunaux, surtout du côté de l'Est, pour la réconciliation des populations. Nous sommes d'accord avec tout ça, mais tout cela s'est passé pendant qu'il y avait, on a enregistré encore des massacres. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a envoyé la brigade
d'intervention
rapide. C'est l'avènement de cette brigade. Cette brigade est arrivée un peu tardivement. Il fallait mettre en place cette force bien avant. On n'aurait peut-être pas compté autant de morts que nous en comptions aujourd'hui. Donc, pour moi, le bilan
est. Merci beaucoup, Eddy.
Nous avons des choses à reprocher à la MONUSCO, mais nous devons aussi être reconnaissants parce qu'entre-temps, il y a eu plusieurs militaires de la MONUSCO qui sont morts. Il faut quand même être reconnaissant.
Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lumbashi. Clovis, vous êtes à Moneditou, au Kasaï. Bonjour.
Bonjour, Gia. Bonjour à tous les amis de la radio Kapi.
Clovis, votre point de vue?
Mon point de vue par rapport à la MONUSCO, qui totalise, si je ne m'abuse pas, 15 ans, je dirais que le bilan, comme venait de le dire mon prédécesseur du Katanga, le bilan est mitigé. Mais c'est par rapport à la situation actuelle, nous trouvons que le bilan de la MONUSCO est mitigé. Mais sinon, la MONUSCO, dans le temps passé, a apporté quand même un plus à la sécurité de la des populations civiles de la République démocratique du Congo. Mais pour le moment, nous trouvons que la MONUSCO est en train de s'écarter de sa mission qui est la consolidation et la stabilité de la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que nous assistons à des massacres sans nom. Nous assistons à des tueries perpétuelles. Donc c'est dans le Katanga, aujourd'hui c'est dans le Kivu, soit le Nord, soit le Sud. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, je pense que l'État congolais ne doit pas lancer aussi ses efforts. L'État congolais doit aussi aider la MONUSCO à bien travailler. Pas pour dire que non, la MONUSCO est là, elle doit prendre tout en charge. Non plus. Alors, l'État congolais est là aussi pour fournir ses efforts, renforcer aussi la MONUSCO à bien travailler, à bien faire son travail sur toutes les familles de la République pour que la sécurité et la protection des civils soient vraiment effectives. Mais pour le moment, nous trouvons que la MONUSCO est en train de réguler. La MONUSCO n'est répond pas surtout à son travail, ne répond pas surtout à sa mission qui est de protéger tout d'abord les civils, protéger la population. Et la MONUSCO aujourd'hui, nous apprendrons qu'il y a la vente des tenues, qu'il y a ça, ce qui fait vraiment mal, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle mal contre elle. Mais sinon, dans les temps passés, la MONUSCO a
joué,
nous l'avons vu en 2010, la MONUSCO a appuyé et a donné quand même à stabiliser certaines parties du pays. Mais aujourd'hui, nous trouvons que non, la MONUSCO est absente. Elle doit quand même se réfugier pour que non, dans les jours à venir, que la population se sente quand même à l'aise et sécurisée.
Voilà, merci beaucoup, Clovis. Merci.
Ne vous dira pas que la MONUSCO est en train de battre son travail.
Merci beaucoup, Clovis.
L'État congolais doit aussi, en même temps, mettre en exerce ses efforts et appuyer aussi la MONUSCO. À ne pas dire que la MONUSCO doit travailler à la place de l'armée ou de l'État congolais quand même.
Merci beaucoup, Clovis. Nous revenons à vous, Michel Alexandre Essomé. C'est vrai, vous avez suivi toute une série des auditeurs, mais on parle d'abord les derniers qui, en fait, trouvent un paradoxe, le fait que aujourd'hui, la MONUSCO, qui a un mandat robuste avec la force d'intervention rapide, mais n'arrive pas à assurer la protection des civils.
Ben, je salue tous les auditeurs qui ont bien voulu répondre ou appeler, n'est-ce pas, à cette période où la MONUSCO enclenche une véritable session de réflexion sur la nature de son travail. Pourquoi la MONUSCO veut faire une semaine de réflexion? Parce que nous avons constaté que par le passé, nous avons réalisé beaucoup de choses que nous pouvons citer ici pour à longueur de journée, mais nous avons réalisé énormément de choses comme l'ont reconnu la plupart des auditeurs qui sont passés avant moi. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des choses que nous n'avons pas pu réaliser. Et donc, il est temps de marquer un temps d'arrêt, de faire une réflexion, de poser la réflexion de sorte que qu'on puisse tirer
c'est la raison pour laquelle les 15 ans ne sont pas célébrés, mais on est en train de...
Non, nous ne célébrons pas, nous utilisons l'expression célébrer parce que en fait, c'est une semaine de réflexion pour la MONUSCO, pour tirer les leçons, pour voir comment on peut améliorer la qualité de notre travail. Souvenez-vous, c'est une œuvre essentiellement humaine. Une œuvre humaine a des défauts, des hauts et des bas. Et dans ce cas, la MONUSCO ne peut pas être à l'abri de ce type de scénario. Mais la vérité, c'est que la MONUSCO a énormément réalisé des choses ici. Par exemple, Covid parlait de l'insécurité à l'Est. C'est à l'Est que nous avons le plus grand déploiement de la MONUSCO. 98% de nos militaires se retrouvent présentement à l'Est. C'est au Nord Kivu, par exemple, que nous avons près de 40 en TOB, ce que nous appelons les bases temporelles et intemporelles que nous avons déployées à l'intérieur auprès des villages. C'est au Nord Kivu que nous avons toute une armée d'individus que nous avons déployés dans les villages les plus reculés du Nord Kivu et du Sud Kivu pour pouvoir obtenir des informations pour la MONUSCO quand le danger est imminent. De sorte que nos militaires peuvent être très proactifs quand il s'agit d'intervenir. Donc, c'est autant de choses que nous faisons au quotidien, sans compter que nous avons la force d'intervention.
Et quels sont les
là-bas?
Oui. Quels sont les défis aujourd'hui à relever dans le cadre du processus de la paix durable en RDC?
Mais les défis sont immenses. Les défis sont d'abord la stabilisation de la partie de l'Est qui est en proie au problème avec les groupes armés. Je vous apprends, je vous dis qu'il y a près d'une quarantaine de petits groupes armés en ce moment dans les parties de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est important que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes déposent les armes.
cessent leur activité criminelle et rejoignent, n'est-ce pas, la plupart des possibilités qui leur sont offertes dans les camps de déplacés, dans les camps de travail, dans le processus de délai, qui déposent les armes et qui deviennent des citoyens normaux de notre société.
Alors aujourd'hui, la sécurité en grande partie est causée par des groupes armés étrangers, notamment la FDLR, les Moraux et tant d'autres. Alors, quelle est la vision de la MONUSCO par rapport à cette question?
Pas seulement les groupes armés étrangers, nous avons aussi les groupes armés nationaux. Les Mamas ne sont pas les...
Qu'on a dû quand même maîtriser certains, on peut citer les M23 qui n'existaient plus, c'est les XM23, il y a les SNDP qu'on a dû maîtriser à l'époque et tant d'autres, bon, les Maï Maï, quelques poches de foyers de détention. Mais en grande partie aujourd'hui, la grande difficulté, la grande problématique, c'est les FDLR et les ADF Nanou.
Oui, je ne voudrais pas que tu aies une photo sur n'est-ce pas, de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que moi, je sors de l'Est de la République démocratique du Congo. Je peux te dire avec beaucoup de faits que la situation, c'est vrai, les FDLR, les ADF et les autres sont un véritable problème à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais sont autant le problème les Maïmaï qui y sont. Vous avez les Maïmaï Tchika, les Maïmaï Janvier, les Maïmaï, je ne sais pas moi encore quoi, il y a les Maïmaï 26, il y a les Maïmaï Katumba, il y a les Maïmaï, il y a toutes sortes de Maïmaï. Et ça, ce sont des gens qui créent, qui tuent, qui pillent, qui violent les femmes dans les différentes localités de l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il est important de stopper ça. Il est important de dire aux fils et aux filles de notre pays qui font ce genre de choses d'arrêter cela. On ne peut pas continuer. Avant même d'aller s'attaquer aux problèmes qui nous viennent de l'étranger, il faudrait qu'il y ait une certaine solidarité d'abord à l'interne. Vous comprenez? On ne peut pas avoir les mamans qui continuent à piller, tuer et violer les femmes, et au même moment, nous voulons résoudre les problèmes qui viennent d'ailleurs. C'est assez complexe et compliqué. Donc, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités, qu'on arrête. C'est pas seulement la MONUSCO va continuer à faire ce qu'elle a fait pour pouvoir sensibiliser les uns les autres, à les amener à comprendre pourquoi il faut arrêter, mais c'est à la fin. La décision réside chez les différents groupes armés qui ont enclenché ce mouvement, d'arrêter ce mouvement.
081-890-6315, pour votre intervention en direct, nous allons passer aux perspectives d'avenir. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans les défis à relever pour le processus durable de la paix en RDC? Papy, vous êtes à Kinshasa, Maître Tri à Kananga et Alain à Guémena. On vous retrouve dans un instant.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteur, compositeur, interprète, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Nous avons Papy qui est à Kinshasa. Papy, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Merci d'être avec nous. Papy, quel est votre point de vue?
Merci. De prime abord, je vais d'abord souligner...
Voilà, Papy, on va pas revenir sur ce qui s'est passé.
...de souveraineté de l'intérieur de l'État. C'est une règle fondamentale, mais c'est juste du droit international public, selon lequel un État ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures de notre État. Mais aujourd'hui, M. J.R., sa portée réelle tend à être limitée par l'émergence et le développement du principe selon lequel la communauté internationale, à l'occurrence les Nations Unies, pourrait intervenir sur le territoire d'un État dans un but humanitaire ou pour y faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Quand bien même que cette intervention pose des problèmes sérieux sur le plan juridique et politique. C'est la raison d'être d'ailleurs du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. En fait, M. J.R., la paix et la justice sont des notions indissociables. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la paix sans justice. Moi, ce que je vais demander à la MONUSCO, tout en ne travaillant pas à la place du gouvernement congolais, doit faire de sorte que la justice soit rendue normalement.
Quand
on parle de la paix, on ne voit pas seulement la présence et l'absence de la guerre. La paix fait recours à beaucoup de facteurs à réunir. Alors, surtout la distribution ou la rétribution équitable de nos richesses. La justice doit être vraiment adéquate, la justice doit être concrète. Parce que nous avons beaucoup de regrets de constater que la MONUSCO a tellement rempli son rôle par rapport au maintien de la paix et de la sécurité. Mais la justice qui doit vraiment produire cette paix-là, parce que la paix est fruit de la justice. Sans la justice, on n'aura pas la paix.
Voilà, merci Papy. Merci, parce que là, vous avez lié la paix à la justice, et vous demandez, parce que nous sommes déjà dans les perspectives d'avenir, donc que la MONUSCO puisse travailler aux côtés de l'État congolais à restaurer la justice à travers le pays. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo, bonjour à monsieur l'invité.
Alors, nous regardons l'avenir maintenant, qu'est-ce que vous proposez à la MONUSCO pour améliorer, en tout cas, là où il y a eu quelques défaillances, afin d'arriver réellement à donner le résultat de ce processus.
Merci beaucoup, JR, de la parole que vous m'accordez. Je pense que la perspective d'avenir pour la MONUSCO, il faut les chercher dans cette résolution qui avait même créé la MONUSCO, donc la résolution 1279. Parce que lorsque nous lisons cette résolution, il y a vraiment des points saillants qui étaient accordés à la MONUSCO pour que la MONUSCO puisse bien faire son rôle. C'est pour cela, lorsque vous jetez un coup d'œil, vous allez vous rendre compte que à 70%, la MONUSCO a pu faire. Donc, ce qui lui avait été demandé, ce qui veut dire, en d'autres termes, à mon humble avis, que le bilan de la MONUSCO est positif, parce que il faut voir d'abord la réunification du pays qui était l'un des objectifs de la MONUSCO, c'est chose faite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me dire que donc la situation que la MONUSCO avait retrouvée, dont la MONUC avait retrouvée en
Oranien,
c'est la même situation qu'au jour d'aujourd'hui. Deuxièmement, on lui avait demandé de tout faire pour l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Et ces choses faites, même si nous ne voulons pas entrer en détail pour comment étaient les élections, mais néanmoins, les élections ont eu lieu. Troisièmement, la formation d'une armée nationale. Au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même une armée. Maintenant, la perspective, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la MONUSCO a une nette idée par rapport aux poches d'insécurité. À l'est, donc, précisément dans la province du Katanga, et puis dans le nord et sud Kivu. La MONUSCO peut maintenant très bien définir sa politique par rapport à ces trois provinces pour voir comment est-ce qu'il faut attaquer sans relâche tous ces groupes armés qui viennent pour tracasser la population. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais rappeler à ceux-là qui disent que non, le bilan est mitigé, c'est vrai, c'est leur point de vue, mais il ne faut pas mettre sur les dos de la MONUSCO la sécurité des personnes et bien qui du reste est le pouvoir régalien d'un gouvernement responsable. Donc la MONUSCO est venue, elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais cela pour la perspective, moi je pense qu'elle doit clairement définir ses objectifs par rapport à ses poches donc d'insécurité qui cause mort d'hommes aux Congolais à l'est, au nord et au sud Kivu et dans le Katanga, même si globalement c'est une question à mon avis politique, mais la MONUSCO doit d'abord chercher à s'imprégner de toutes ces situations pour essayer maintenant d'achever donc en bon terme sa mission.
Merci beaucoup, Maître Adrien. On va prendre Alain qui est à Guémena. Maître Alain, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre point de vue, Alain.
Oui, je profite à cette occasion pour saluer ma mère Emilie Atete et mon père Laura Mabala et Tungwa. Vraiment, par rapport à ce que la MONUSCO a fait chez nous ici à l'Équateur, moi je l'ai apprécié, je dis toujours, c'est de bon. Mais il y a des choses, il y a des éléments clés. Les éléments clés sont lesquels? Vous savez, la stabilité ne peut jamais exister sans la paix. La justice doit être là accompagnée de certaines choses, surtout l'état de la crédibilité. La crédibilité à côté, salaire qui arrive à satisfaire le fonctionnaire à côté, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un parent qui touche moins de choses et il y a une rébellion à côté, moi, je dirais non. j'ai rejoint le cas de la rébellion parce que c'est pour moi, mon père est en train de souffrir.
Mm-hmm.
Moi, ma mère a fait qui touche 72 000 francs congolais. Aussi autant que moi, le fils, j'essaie de gaspiller plus de 5 000 francs congolais.
Voilà,
donc, c'est l'un des éléments que la MONUSCO
voilà, a allez, donc, quand vous venez,
vraiment, ce sont des choses que, bon, on ne sait pas. Si ça se faisait partout ou par avant, comment je ne sais pas moi. La MONUSCO doit en tenir compte.
Voilà.
Donc, la chaîne ne peut jamais avec les éléments que je vais dessiner.
Voilà, donc nous profitons d'ailleurs pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Guémena, hein, allez, donc ils sont avec vous, à commencer par votre mère, que vous avez pu saluer, sans donc à Étienne et tant d'autres des clubs de Radio Capi. Voilà, on va prendre Franck qui est à Vienne, en Autriche, d'un moment à l'autre, mais parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe. Il y a Alexandre Sommet qui va quand même répondre à notre auditeur de Guémena tout à l'heure.
Oui, mais je conseille
par la salaire, la justice. En fait, la restauration de la justice, est-ce que la MONUSCO ne peut pas à l'avenir travailler aux côtés du gouvernement congolais pour la restauration de la justice?
Ce qu'il faut admettre, GL, c'est que la plupart des préoccupations de nos auditeurs sont fondées, et je crois que c'est la justice qui évoque ça, parce qu'on sent dans la voie, dans la façon de mettre en avant ces idées, on sent qu'il y a un problème. Et comment on peut apporter une solution au problème? Il faut d'abord imposer la paix. Et vous savez, je vous ai parlé là-dessus, la résolution 2147 du Conseil de sécurité a donné mandat à la MONUSCO de faire un certain nombre de choses. Et ça, il faut cadrer les choses, parce que pourquoi la MONUSCO reçoit les mandats tous les ans? C'est pour permettre à la MONUSCO d'améliorer thématiquement et de façon cadrée la nature de son travail. Et le mandat 2147 a donné à la MONUSCO le mandat d'initier des actions de stabilisation. Je vous apprendrai peut-être quelque chose. Dernièrement, au Conseil de sécurité, M. Corbet, qui est le représentant spécial du secrétaire général ici en République démocratique du Congo, a dit au Conseil de sécurité qu'il est temps qu'on parte d'un esprit, d'une mentalité, d'une économie de guerre à une mentalité d'une économie de paix. Il est important qu'on se départisse de cette logique où constamment nous sommes après les groupes armés, nous sommes après les groupes armés étrangers, nous sommes après ceux qui tirent profit de la guerre, pour aller dans une économie qui est fondée, qui est solide, qui génère des impôts et qui construit des bâtiments, qui construit le développement pour son pays. On ne peut pas le faire tant que nous avons une situation de jeunes gens qui sont incontrôlés à l'Est, qui prennent les armes et qui violent, pillent les sociétés de l'Est.
Oui. Mais comme que vous l'avez évoqué, il y a quand même bon nombre de gens qui se posent la question. En 15 ans, plus d'une soixantaine de résolutions, alors à commencer par la résolution 1279 en 99 et à la résolution 2098 aujourd'hui, pourquoi les conseils de sécurité d'aller au-delà même de 15? Parce qu'en 15 ans, on suppose, on imagine qu'on pourrait avoir simplement 15 résolutions.
Mais en un seul mot, je peux vous dire que c'est la marque de sympathie. Cela veut simplement dire que la communauté internationale a compris qu'il y a un problème.
La situation est très difficile, très compliquée.
Très complexe. Nous avons quand même un pays de plus de 2 millions de mètres carrés, plus 70 millions de personnes. C'est un grand pays. Le Congo, vous le savez aussi, c'est la gâchette du continent africain. Quand ça va mal au Congo, ça va mal un peu partout à travers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique
dans la région, dans la sous-région.
C'est vraiment important que le Congo soit un pays stabilisé. Donc, les efforts sont mis par tous les membres de la communauté internationale pour s'assurer que il y a une stabilité à l'autobie démocratique du Congo. Il y a un semblant de paix pour pouvoir permettre aux différents acteurs de vaguer à leurs occupations. Donc c'est une marque de sympathie, c'est une marque d'attention de la part de la communauté internationale qui génère toutes ces résolutions pour permettre, n'est-ce pas, de trouver des solutions aux problèmes congolais.
Raison pour laquelle aujourd'hui on parle des îlots de stabilité.
Oui, c'est un concept.
D'aucuns, il avait un peu. C'est pas une idée très claire sur ces concepts-là.
C'est un nouveau concept qui a été donné à la MONUSCO à la faveur de la dernière résolution 2147, qui a autorisé la MONUSCO de mettre en place la plupart des idées pour pouvoir promouvoir les îlots de stabilité. Il s'agit de quoi? Il s'agit, chaque fois que nous libérons une localité, nous en avons déjà 15 comme ça en ce moment, nous libérons une localité des groupes armés, on y envoie non seulement l'armée, la police, les services administratifs, y compris les services de la MONUSCO, pour pouvoir stabiliser et garder cette position. Parce qu'en fait, l'expérience du passé a clairement démontré que chaque fois qu'on libérait des localités, quelques temps plus tard, les groupes armés revenaient à ces endroits. Mais il faut maintenir ces positions de sorte que
qu'il y ait un semblant de retour à la vie normale pour les populations civiles.
On va écouter quelques auditeurs avant de clore cette émission. Franck qui nous a appelé des Vienne, Omar est à Kinshasa. Franck, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, monsieur Gère, bonjour à l'invité, je suis là.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, quel est votre point de vue par rapport à, aux interventions des uns et des autres?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que quand on fait l'évaluation d'une mission des Nations Unies dans un pays post-conflit, mais toujours souverain, il y a d'abord lieu de rappeler à nos compatriotes congolais, ou il y a lieu de rappeler aux citoyens congolais, c'est que chaque gouvernement ou bien c'est que chaque État a comme charge régalienne par rapport à la sécurité de ses citoyens ou par rapport à l'intangibilité de ses frontières ou à l'intégrité de son territoire national. Alors, partant de cet aspect, tout est clair, on ne doit plus tout attendre de la MONUSCO ou de cette mission. Parce que quand les Nations Unies envoient ses troupes, comme c'est le cas chez nous, c'est par rapport à certaines résolutions votées, il y a certains États membres qui acceptent de disponibiliser ces hommes pour une telle cause. Car l'ONU en soi, votre invité l'a aussi rappelé, l'ONU en soi n'a pas d'armée ou bien une troupe propre à elle. Mais si l'ONU doit aller intervenir quelque part, c'est en coopération avec les quelques États membres ou bien avec les États membres qui acceptent de lui disponibiliser ces hommes. Mais disponibiliser ces hommes ne signifie pas que les gens qui sont envoyés pour une telle mission doivent tous aller mourir là-bas. Donc, les troupes des Nations Unies viennent renforcer les nôtres à base de certaines résolutions votées par les États membres, mais ne sont pas d'abord envoyés pour aller se retrouver seuls au front à la place des nôtres, quoi. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a un peu de divergence de vue au vu de certaines résolutions qui sont passées l'une après l'autre et parfois il y a des commets de mortels qui n'arrivent plus à se situer pour se fixer. Quelle est pour l'instant la vraie mission des Nations Unies et comment cette mission, cette résolution doit maintenant fonctionner par rapport à l'existence de notre État qui se veut souverain jusqu'ici. Alors, je crois personnellement, je suis à l'étranger, je suis ce qui se passe là chez moi. On doit quand même être objectif, on doit quand même être honnête, serein, pour reconnaître les quelques efforts manifestes que nous sommes en train de voir depuis mon année. Mais nous devons aussi le dire que les objectifs de la paix ne sont pas totalement atteints sur toute l'étendue de la nation congolaise ou du pays. Donc à ce niveau-là, c'est à notre pays, c'est à notre gouvernement, c'est à nous citoyens congolais de nous impliquer dans cette lutte pour que la paix redevienne. Parce que je ne pense pas que quand il y a un conflit même en Afrique là-bas, il y a un conflit à la République centrafricaine là-bas, on a aussi dépêché des contingents de soldats congolais. Qui de nous serait d'accord de voir tous nos militaires dépêchés en République centrafricaine aller mourir là-bas? Je ne pense pas que c'est d'abord ça l'intention. Donc quand vous êtes en difficulté, on peut vous venir en aide. C'est vrai par rapport à ce qui est écrit dans le charte des Nations Unies, on peut venir un État en aide. Mais pour le cas du Congo, c'est un État post-conflit, mais qui est toujours souverain. Donc la MONUSCO travaille en concertation, en consultation avec le gouvernement congolais. Quelque part, il y a un confrère qui a dit que pour le moment, par rapport aux poches de résistance qui sont vers la partie Est, la MONUSCO doit avoir sa politique. Je crois que ce que nous devons comprendre, la MONUSCO doit avoir un plan d'action. La MONUSCO doit avoir une manière de collaborer avec l'État congolais et en concertation avec l'État congolais. Sinon, si nous demandons à la MONUSCO d'avoir son plan d'action à part, soumis à la délibération avec le gouvernement congolais, ça devient encore du désordre. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous, citoyens congolais, nous devons aussi savoir que dans un État, si les injustices sociales, si les inégalités citoyennes deviennent des formes de loi, alors le militantisme, le courage citoyen de dénoncer tout haut en devient un devoir. Donc, on doit plus s'abstenir pour dire, pour dénoncer ce qui ne va pas. Nous devons le dénoncer parce que ce pays nous appartient, on devrait vraiment militer pour qu'on laisse aussi à notre postérité un héritage convenable.
Merci.
Parce que si pour le moment nous croisons les bras, nous attendons que les autres viennent tout faire à notre place, mais ce n'est pas leur mission.
Oui,
ils viennent nous assister, ils viennent nous aider, mais le plus grand travail doit être fait par
nous-mêmes Congolais. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Donc, nous retenons que vous demandez à la MONUSCO de repenser un peu sa vision donc, pour l'établissement de la paix en RDC. Voilà, raison pour laquelle, comme nous l'avons dit, notre invité l'a reconnue. Donc, au niveau de la semaine de réflexion, on y pense pour un peu voir quelles sont les nouvelles stratégies à mettre en place pour amener réellement le Congo à la paix. On va prendre Omar avant de revenir à notre invité. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Maître Omar, vous avez la parole.
Merci beaucoup JR. Le temps faisant défaut, je voudrais directement aller au ciel. Avant tout, je rends hommage à la MONUSCO qui nous aide depuis un certain moment. Il faudra vraiment être négativiste et demander ce qu'on n'est pas reconnaître les efforts. Certes, il y a encore des efforts à fournir. Aucune œuvre humaine n'est pas parfaite, mais il faudra, en tant que Congolais honnête, reconnaître. Comme les autres l'ont dit, sur le plan politique, bien à parler, la MONUSCO nous a accompagnés sur la paix et la cohésion. On a vu la présence de M. Swing partout dans tous les ateliers de co-réconciliation. Sur le plan humanitaire, c'est lui qui critiquera ce qui n'est pas un appel humanitaire. Nous qui avons dans l'humanitaire sur le terrain, nous voyons comment la MONUSCO nous aide. Aujourd'hui, on parle de la radio Kati qui nous permet de nous exprimer librement. On parle également sur le plan culturel. Beaucoup de groupes scientifiques sont soutenus. Donc, je ne suis pas là pour faire le fanatisme de la MONUSCO, mais en tant que Congolais et chrétien, il faut reconnaître les efforts. Mais là où mon problème, c'est pour se gérer au niveau militaire. Je sais et je soutiens ceux qui disent que la MONUSCO n'a pas pour ambition de remplacer l'armée d'un État. Et depuis 2013, le mandat de la MONUSCO a été renforcé sur le plan offensif. J'avais posé la même question à M. Martin Colbert la fois passée et je voudrais profiter pour poser à l'invité. Qu'est-ce qui manque à ce que l'on puisse mettre réellement fin à tous ces groupes qui mettent les troupes à l'aise? Parce qu'au départ, il y avait un mandat défensif, on n'avait pas la possibilité d'attaquer. Avec la résolution 2098, l'on a renforcé ces mandats. Mais qu'est-ce qui empêche à la MONUSCO de mettre fin? Est-ce un problème de cohésion des tactiques entre l'armée et la MONUSCO? Est-ce un problème de conflit des capacités? Ou c'est un problème ailleurs? Je voudrais, quand je finirai, que l'invité puisse répondre. Mais pour finir, j'ai dit que le temps fait beaucoup.
Oui, allez-y rapidement.
Les vrais problèmes de prix sont ailleurs. J'ai toujours fait mes recherches. Je pense que s'il y a toujours la guerre envers des pays, les problèmes sont le manque d'unité entre Congolais. Que voulez-vous que la MONUSCO fasse si aujourd'hui on prend des tactiques et qu'un membre du gouvernement ou un membre du gouvernement congolais trahit les plans au niveau de rebelles? Il y a un autre problème, la problématique des frontières est solide. C'est l'une des causes qui font la guerre en RDC. Et je voudrais que lors de ce mandat, que la MONUSCO puisse renforcer ses capacités pour qu'on puisse aider les deux pays voisins à rétablir leurs frontières. Et enfin, il y a la présence des intérêts étrangers. Aussi longtemps que les puissances étrangères ont leurs intérêts, ni la MONUSCO ni l'armée ne feraient un effort. Voilà pourquoi je voudrais finir pour dire, je pense que le temps qui reste, il faudra que la MONUSCO, qui fait déjà un bon travail, puisse renforcer les capacités des institutions congolaises, comme il a toujours fait, parce que la transformation de la MONUSCO à la MONUSCO était viser la stabilisation, faire développer, renforcer l'armée congolaise, renforcer la justice, et inciter beaucoup de conférences sur la bonne gouvernance. Et des deux, encourager et soutenir, voire superviser les dialogues entre Congolais, aussi longtemps qu'il n'y a pas de...
Voilà, Omar, on retient, par rapport à votre intervention, il y a une nouveauté, hein, par rapport à d'autres interventions qui nous ont précédé. Cette question relative aux drones, le travail que fait les drones pour contrôler les frontières, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut entrer et faire n'importe quoi. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Le temps d'accorder peut-être une minute à David et à Roger, donc à chacun une minute. David, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Rapidement, en une minute, qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir de l'RDC en matière de la stabilisation et de la paix?
Oui, je voulais proposer à la MONUSCO d'être un tableau signalétique et un tableau de bord vis-à-vis de notre gouvernement. Pourquoi? Parce que MONUSCO doit prévenir les guerres. Compte tenu de ce que le gouvernement cherche à faire, à changer la constitution, donc le gouvernement est en train de projeter une guerre en avance.
Voilà, David. Oui, David, donc, vous demandez à ce qu'on sente réellement l'implication à tous les niveaux de la MONUSCO. Roger, vous êtes avec nous, bonjour. Roger, vous êtes avec nous?
Voilà, Roger n'est plus en ligne, Alexandre Sommet, c'est vrai, on va ramasser maintenant les interventions des uns et des autres, c'est vrai, pour éclairer un peu là où il y a encore de zones d'ombre, et aussi le projeter l'avenir, parce que 15 ans après, il y a une semaine de réflexion pour voir quelles sont les stratégies, là, si c'est nécessaire, les approches à améliorer, à changer, pour que finalement la population aussi, qui salue de demain le travail qui est fait, la majeure partie des interventions que nous avons suivies, et d'autres qui sont encore sceptiques, hein, pour que nous continuions les deux.
Ben, moi, ça me va tout droit au cœur. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui affirment que la Monusco a effectivement fait un travail qui est positif, même s'il y a encore des aspects qui faillent qu'on améliore. Donc, de ce point de vue, je crois que nous prenons note. C'est pourquoi nous avons enclenché cette matinée, cette semaine de réflexion, pour nous permettre de mieux comprendre, d'écouter les Congolais et de savoir qu'est-ce que nous avons fait de bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Comment on peut les améliorer en regardant vers l'avenir? Donc c'est ça, n'est-ce pas, le but de la manœuvre de cet exercice. Mais pour souligner seulement deux points par rapport à ce que l'auditeur Omar a dit, pour nos militaires, il est extrêmement important de comprendre que la brigade d'intervention qui est à Goma a fait son travail. C'est grâce à la brigade d'intervention que les FADC ont défait totalement le M23. C'est grâce à la brigade d'intervention que les FADC sont en train de pourchasser les ADF, ADF Mali du côté du Grand Nord. Et donc, un travail est fait. Et un travail également fait du côté de Pinga, où les FADC pourchassent Tcheka et compagnie pour pouvoir les déloger de ce que nous avons appelé par le passé le triangle de la mort. Donc, il est important de comprendre pourquoi la FIB travaille sur le terrain. Mais la FIB ne peut pas seule faire tout le travail. C'est juste une petite unité qui a été envoyée là-bas, n'est-ce pas, pour aider la FADC à pouvoir faire son travail. Donc, nous allons étape par étape, et je vous apprends rien si je vous dis que le représentant spécial, M. Martin Corbet, a dit que nous allons engager, nous allons pousser, pousser même, j'allais dire, les FDLR, dès que le temps qu'il aura imparti arrive à son terme le 2 de janvier prochain. Donc, nous sommes là en train d'affûter nos armes, nous sommes en train de nous apprêter pour s'assurer que tout ce qui crée la mort, les violations, les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo, que nous apportons le soutien qui soit nécessaire. C'est le point de vue militaire. Nous pensons que nous faisons le mieux de notre possible pour s'assurer que nous apportons un temps, tant soit peu, n'est-ce pas, un répit à la population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais également réagir peut-être rapidement en rapport avec le collègue qui a appelé de Matadi, je crois, que la Monusco ne peut pas tout faire. Et beaucoup de gens l'ont souligné par le passé. La Monusco peut seulement faire ce que le mandat du Conseil de sécurité lui a donné comme permission de faire. Nous pourrons également faire des choses que grâce aux ressources que nous avons sous la main. Et la République démocratique du Congo est un grand pays, a une population extrêmement vaste, et donc les moyens que nous avons et le mandat qui nous a été donné, c'est nous nous limitons de ça dans le cadre de ce qui nous a été donné.
Et dans les perspectives d'avenir pour les élections, comment la Monusco compte s'impliquer?
Ben, c'est pourquoi nous avons enclenché cette réflexion, et dans le cadre du mandat qui nous a été donné, nous sommes déjà en plein dans le travail des îlots de stabilité, qui est un concept qui a été expliqué auparavant. Et donc, nous voulons sécuriser la plupart des poches d'insécurité qui sont à l'Est pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de vaguer à leur occupation habituelle. Parce que nous pensons que s'il y a la sécurité, s'il y a la paix, n'est-ce pas, les populations congolaises vont petit à petit commencer à constituer le modèle de leur développement. Parce que sans développement, vous le savez très bien, on ne peut pas développer un pays. Et donc, il est extrêmement important qu'on aide à sécuriser grâce aux îlots de stabilité, grâce aux actions de la brigade d'intervention.
On termine par les trafics de TD, les cartes bleues. Juste un commentaire en une minute.
Ben, le commentaire, c'est que c'est une histoire rocambolesque. Et je crois que nous n'avons pas recommencé jusque-là. Les enquêtes se poursuivent. Pour nous, c'est une affaire très rocambolesque. Et nous voulons d'abord peaufiner toutes les enquêtes, savoir ce qui s'est passé avant de faire une déclaration.
Alexandre Sommet, vous êtes le chef de la communication sociale à la MONUSCO. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir accepté de partager ces moments avec les auditeurs. Hein. Ils sont parfois très émotionnés et très passionnés hein, dans les débats. Vous avez aimé sûrement les débats.
J'ai plutôt trouvé que les auditeurs étaient très acceptés par la MONUSCO. Ils acceptaient, n'est-ce pas, le travail de la MONUSCO, ce qui est plutôt positif pour la MONUSCO.
Pourquoi pas rendez-vous à la 16e année de la présence de la MONUSCO à l'RDC pour partager à nouveau ces moments, en tout cas ces 57 minutes interactives avec les auditeurs au cours de ces magazines de débat citoyens. Une fois encore, merci et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Voilà, nous disons merci à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de ce programme qui a été réalisé par Pierrot et Lamégi et Julie César Bongonda. Il faut noter que cette émission a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision d'Eléonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi, la fréquence de la paix.